La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et tout de suite on découvre la solution d'Elisabeth Assayag.
Et si votre enfant a besoin d'un soutien scolaire, vous êtes au bon endroit, scolaire mais différent, personnalisé, parce qu'il y a une solution Elisabeth et elle s'appelle Willoki.
Willoki s'est accompagné de façon personnaliser les élèves du primaire et du collège. C'est ce que vous proposez, Willoki ou Willoki, du CE1 à la 3e. C'est une start-up qui existe depuis un an. C'est du soutien scolaire en ligne qui s'adapte à chaque enfant. Comment ? Eh bien, à travers des dizaines de milliers de vidéos, de fiches détaillées, d'exercices. Et c'est l'intelligence artificielle qui intervient et qui permet d'obtenir le profil de chacun des élèves, qui permet à l'appli d'adapter l'offre en fonction du niveau de chacun. Bonjour Manon Ouskian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Willoki. Alors, pourquoi Willoki ? Parce que c'est une énième appli d'aide scolaire, de soutien scolaire. Qu'a-t-elle de plus ? Qu'a-t-elle de si particulier ?
Alors d'abord, merci parce que vous avez très très bien présenté Willoki, je dois dire.
Merci.
Et vous l'avez vous-même dit, hein, effectivement, aujourd'hui, il existe des solutions de soutien scolaire parce qu'il y a une vraie demande, d'autant plus des soutiens scolaires en ligne, il y a une vraie demande de solutions digitales, mais le marché est à construire aujourd'hui. Il n'y a pas la solution innovante, personnalisée, motivante, et ça, c'est vraiment la place qu'on veut prendre et ce qu'on veut apporter.
Et quelle est alors votre solution ? Comment ça marche, Willoki ?
Alors, tout simplement, il faut le dire vite.
C'est simple pour nous, mais c'est probablement compliqué derrière.
Exactement. Alors, en fait, on utilise notre technologie d'intelligence artificielle combinée avec un contenu très riche pour adapter en continu le parcours d'apprentissage au profil de l'enfant. En fait, tout simplement, on a un enfant qui peut être intimidé par les chiffres, à l'aise avec la géométrie, qui réagit mieux à la pratique qu'à la théorie, qui peut être vite perdre confiance en lui. Mais nous, ça, on va le détecter, on va le repérer dans son utilisation de Willoki.
Mais comment vous le repérez ? Comment vous arrivez à repérer un enfant qui n'a pas confiance en lui ou qui est un peu intimidé par les chiffres ?
C'est tout le travail de machine learning derrière. C'est de l'analyse continue de données. Aujourd'hui, on capture plus de 10 millions de données événements de tous nos utilisateurs, de la façon dont ils ont utilisé Willoki. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a énormément de contenus différents et on voit en fait à chaque fois combien de temps un enfant passe sur chaque question, s'il est plus à l'aise, s'il passe rapidement sur une vidéo, s'il est plus à l'aise avec des exercices, avec des cours écrits. Et au-delà de ça, alors là, je parle vraiment de la partie pédagogique pure et dure, mais Willoki, ça va plus loin, c'est vraiment l'univers complet qui va motiver l'enfant, lui donner le goût d'apprendre, l'envie de progresser.
C'est quoi cet univers ?
Et alors, ça va être on va jouer sur plein de leviers de motivation. On a bien sûr le classique pour les enfants les plus compétitifs. On monte en niveau, on gagne des points. Mmh. Avec ces points, on peut se débloquer des cadeaux. On a des cadeaux partenaires, par exemple des audiobooks d'Audible, des bandes dessinées numériques, etc. Y a pour les plus sociaux des échanges sécurisés avec leurs amis, des défis en ligne qu'ils peuvent lancer à leurs copains, des avatars qu'ils vont personnaliser en montant en niveau. On organise des énigmes,
des concours.
Et pour
ceux qui ont plus de difficultés, qui ont plus de mal, qui sont encore un peu à la traîne, que pouvez-vous leur proposer ?
Alors là, c'est parfait pour eux parce que justement, on va s'adapter à eux et s'adapter à leur rythme. C'est vraiment ça la clé. C'est, en fait, chaque enfant est différent. Je pense qu'on le sait tous, chaque enfant est différent. Leur éducation devrait l'être également. Et c'est vraiment sur cette conviction qu'on a développé Willoki parce que les nouvelles technologies permettent d'apporter cette personnalisation et de s'adapter vraiment au rythme de l'élève. D'autant plus avec des solutions digitales où là, il n'y a pas la crainte du jugement de l'enfant, la crainte de participer, de faire des erreurs. En fait, il travaille en autonomie. Il n'a pas peur de demander une réexplication. De se tromper, de demander de répéter. Ça, c'est justement, il est en confiance totale avec un outil avec lequel il travaille lui-même en toute autonomie, sans jugement.
Notre coach, Sylvain Lambert.
Oui, quel est le modèle économique, en fait ? Qui est le client et qui paye quoi ?
Très bonne question. Alors, c'est un système d'abonnement premium, tout simplement. Donc, nous, on s'adresse aux parents. Avant tout, c'est les parents qui téléchargent l'application pour leurs enfants. Nos utilisateurs, ce sont les enfants. Et ensuite, on a une belle partie du contenu qui est en accès gratuit parce que notre mission, c'est quand même donner accès à l'éducation au plus grand nombre et la meilleure éducation possible. Et puis ensuite, bien sûr, c'est un modèle d'abonnement premium avec des fonctionnalités.
Combien ?
L'abonnement ? Ouais. Alors, c'est 24,99 euros par an.
Par
utilisateur, ah. Oui. Et à nouveau, on veut être vraiment accessible
à tous. C'est uniquement ça qui vous finance, il n'y a pas, par exemple, vous avez parlé de cadeaux avec des partenaires ou de la publicité, parce que 24,99 par an, il faut beaucoup, beaucoup de parents pour avoir un modèle résilient.
Oui, mais ça fonctionne bien. Et alors,
combien d'utilisateurs depuis le début ?
Aujourd'hui, on a plus de 400 000 utilisateurs.
Ah ouais, donc 400 000 abonnements déjà.
Alors non, et des utilisateurs. Ensuite, on a des abonnements, mais on est d'abord, comme je vous disais,
on
a d'abord,
accès,
c'est gratuit.
Exactement.
Et alors, vous parliez tout à l'heure de publicité. surtout pas sur Willoki. On est une solution d'éducation et pour les enfants. Donc, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut mettre en avant. Les cadeaux partenaires, ce sont des cadeaux, ce ne sont pas des offres publicitaires.
Quand on a commencé à utiliser Willoki, on reste sur le Willoki. Vous avez déjà un retour d'expérience?
On a énormément de retours d'expérience. C'est vraiment la clé. Nous, c'est comme ça qu'on valide que le modèle fonctionne. D'abord, on valide que les enfants font effectivement des progrès sur Willoki. Et ensuite, effectivement, les enfants restent. Ils reviennent et c'est ça la clé, hein, c'est la motivation, leur donner envie de revenir, le goût d'apprendre. On reçoit tous les jours des retours de nos utilisateurs qui nous disent qu'ils adorent apprendre avec Willoki, qu'ils gagnent confiance en eux. Et les parents eux-mêmes nous disent, les enfants quand ils rentrent à la maison, ils disent « Est-ce que je peux jouer au devoir, maman ?»
Vous avez tout gagné avec ça.
Alors là, on a tout gagné.
Vous avez tout gagné.
Exactement.
Et ça s'appelle Willoki. Merci d'être venu nous présenter cette solution de soutien scolaire différent et personnalisé. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Vous savez que le Black Friday divise. On en parle sur Europe 1. C'est le dossier du jour parce que des Français ont décidé de lancer des mouvements parallèles pour dire stop à la surconsommation. Ils seront avec nous d'ici quelques minutes. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous savez que vous êtes les bienvenus dès lors que vous êtes en train d'innover, de créer, de porter haut les couleurs de la France, qui s'implique et qui construit aussi la société de demain. Et cette société, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa manière de consommer, partagée entre les prix bas que lui offrent des opérations commerciales comme le Black Friday et l'envie aussi de moins consommer ou de mieux consommer, en tout cas de consommer autrement. C'est à ce mouvement qu'on a décidé de s'intéresser ensemble aujourd'hui parce qu'il s'enracine. Bonjour Karina Pérez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices du Green Friday, coprésidente également du REFER. Ça s'écrit R-E-F-E-R. REFER. Ouais. On dit, mais je précise l'orthographe parce que sinon on va me dire, vous n'avez pas dit comment ça s'écrivait. Le réseau francilien des acteurs du réemploi. On va commencer par expliquer ce qu'est véritablement le Green Friday et comment il est né. C'est un collectif d'entreprises et d'associations qui se sont regroupées pour s'engager dans une consommation plus responsable.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée en 2017, c'était de commencer la riposte contre le Black Friday. Alors, on était un peu tout seul à l'époque, mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'était vraiment de déconstruire le mythe de la consommation. Donc, on ne gagne rien. Nous, on est déjà des associations, donc on est à la base pas tellement là-dessus. Hein. Mais même les entreprises qui font partie du Green Friday, en fait, s'engagent en fait à reverser une partie de leur chiffre d'affaires de la journée à des associations qui luttent contre l'obsolescence programmée, contre aussi toute forme en fait de surconsommation, parce que c'est ça la priorité.
Donc vous invitez les gens aujourd'hui qui vont aller par exemple dans les magasins à se poser des questions sur leur manière de consommer, c'est ça aussi l'idée?
Oui, l'idée c'est vraiment en fait de se dire mais pourquoi aujourd'hui je vais consommer autant de choses inutiles? Parce que c'est ça quand même le Black Friday, c'est nous mettre dans la tête une petite ritournelle toute la journée en disant « Oh là là, si je ne consomme pas ça, je vais vraiment rater l'affaire de ma vie ». En fait, la vie, c'est pas que consommer. C'est beaucoup d'autres choses et ça passe pas uniquement par la carte bleue.
Est-ce que tout le monde peut le faire ou quand on a peu de moyens, par exemple, on n'est pas tenté, même si on a une conscience écologique, d'acheter parce que à ce moment-là, le prix est intéressant. Comment
Alors ça,
on fait pour se positionner sur ce problème-là?
Alors moi, je dirige une ressourcerie dans le 17e, qui est la ressourcerie des Batignolles. D'accord ? Donc c'est un endroit où on fait du réemploi et on pratique une redistribution solidaire, donc à tout petit prix. Donc on déconstruit en permanence ça, parce que, par exemple, moi je suis au SMIC, hein, mais je ne me dis pas aujourd'hui, oh là là, je vais rater l'affaire de ma vie parce que je ne vais pas acheter le truc qui vraiment manquait absolument. En fait, il manque quoi ? C'est ça la question, c'est quels sont nos besoins aujourd'hui ? Comment y avoir accès, c'est-à-dire, et c'est une question bien plus politique qu'on pourrait le penser, parce que se dire que produire pour satisfaire les besoins de la population française, ben, ça va très loin, vraiment très loin.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur le Black Friday. Elisabeth, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe depuis longtemps chez nous en France?
Mais on a l'impression que ça existe depuis toujours. Mais en fait, ça existe depuis 6 ans à peine en France, depuis 2013. Aux États-Unis, le Black Friday existe depuis de nombreuses et de nombreuses années. Il désigne le lendemain du repas du jeudi de la Thanksgiving et surtout
c'est le grand jour de promo, de solde, qui lance la saison des achats de fin d'année. Le vendredi 29 novembre, donc là, aujourd'hui, c'est synonyme pour les Français, ceux qui en ont envie, de Black Friday. Et là, vous pouvez le constater, hein, déjà, vous pouvez le constater sur votre téléphone, hein, les alertes, les mails, les SMS, des petites, des grandes enseignes, des sites de commerce en ligne qui proposent d'importants rabais. Là, on est aussi un peu comme aux États-Unis, c'est le top départ. Allez, on y va, les achats de Noël, c'est parti. Les dimanches, là, à partir de demain, à partir d'après-demain, les centres commerciaux sont ouverts. Hein, ça l'est déjà depuis 2-3 semaines pour certains. On est davantage dans une tendance du Black Friday Week, hein, traduction la semaine des promotions, avec des promos qui s'étalent de plus en plus dans le temps et jusqu'au réveillon même.
Donc aujourd'hui, vous êtes 6 membres fondateurs. Il y a 400 entreprises et associations qui sont dans ce mouvement du Green Friday. Vous dites quoi aux gens qui vont voir les pancartes? On dit aux consommateurs, on ne vous propose pas de réduction dans nos rayons, simplement on va vous montrer qu'on peut consommer autrement.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on essaie de proposer et de sensibiliser surtout les consommateurs à se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
C'est-à-dire l'utile et pas le futile.
Voilà. Mais en fait, le futile, des fois, c'est sympa aussi. On n'est pas des ayatollahs. Enfin, il ne faut quand même pas non plus exagérer. Mais vraiment, se dire, est-ce que vraiment j'en ai envie? Absolument. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et en fait, c'est toute une déconstruction. Parce qu'en fait, par exemple, on sait très bien que la valse des étiquettes, les réductions, elles sont souvent assez, hypocrite, voire malhonnête. On augmente les prix en amont pour les baisser ce jour de super promo.
Il y a quand même une législation, hein,
oui,
qui existe.
Oui, mais bon.
Vous avez toujours été comme ça parce que vous parlez de déconstruction? C'est votre façon de vivre depuis toujours ou vous avez eu une overdose de consommation?
Vous étiez journaliste avant?
J'étais journaliste, oui, effectivement.
Et donc, vous avez toujours été comme ça?
Non, bien
donc
sûr.
Donc, vous avez eu votre overdose de surconsommation où vous vous êtes dit, j'arrête tout. Il s'est passé quelque chose dans votre vie pour être aussi engagée là-dedans?
Alors, j'ai deux choses. Le métier de journaliste, vous savez, est un métier où on est particulièrement choyé. Donc, des fois, ça dépend.
Pas forcément. Mais ça, au précaire, qui
non, mais choyé dans un des certains secteurs, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une vision qui est celle de tout le monde, c'est qu'on a envie aussi, évidemment, de profiter de tout ce qui est à notre portée. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'en fait, j'ai commencé à être bénévole dans une association qui, en fait, nous permettait de trier tout ce que les gens ne voulaient plus. Et donc, dans tout ce que les gens ne voulaient plus, il y avait énormément de choses neuves qui n'avaient jamais servi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5 millions de tonnes, par exemple, sont mis sur le marché en textile. Chaque année, 5 millions de tonnes, c'est énorme. Et en fait, 4 millions sont jetés. C'est ça. C'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai... Voilà.
C'est pour ça que vous vous êtes engagé encore plus. Sylvain, notre coach.
Justement, aujourd'hui, quel est l'impact de votre mouvement? C'est-à-dire en entreprise, en fonds levés, en reversés aux associations, ça donne quoi comme niveau?
Alors, c'est un mouvement où, en fait, qui est très hétérogène. Moi, par exemple, je suis une association, il y a des entreprises. Globalement, la masse qui doit être levée sur, je ne sais pas du tout combien d'argent ont été reversés à Hop l'année dernière.
Ou combien d'associations vous touchez?
Alors, on est 400 en tout, donc ouais, c'est beaucoup. Et toute la journée, je vous invite à regarder sur le site web du Green Friday. Il y a énormément d'actions de sensibilisation, d'ateliers gratuits, des choses qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut... Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi ce qu'on peut faire ensemble quand justement on ne consomme plus. Et c'est du temps. Et le temps, c'est, je pense, la chose la plus précieuse en fait aujourd'hui.
On reste ensemble et bien on sûr continue justement à parler de ce mouvement qui est en train de s'enraciner ici en France.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si on achetait en conscience? C'est possible grâce à Ethic Advisor, une appli qui calcule l'impact sur la planète, notamment de ce qu'on a mis dans notre panier. A tout de suite.
Le Black Friday, c'est aujourd'hui. À moins de vivre dans une grotte, vous n'y avez pas échappé. Cet après-midi, on en parle dans La France Bouge. On parle surtout des alternatives au Black Friday. Dites-nous si vous vous sentez concerné ou pas par ces journées de promotion. Vous nous écrivez pour nous le dire sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors vous nous appelez Raphaël au 3921.
Oui, parce qu'on est en train de vivre un tournant dans notre manière de consommer. Pour en prendre conscience, eh bien,
Une appli nous aide. Bonjour Eric Taillard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Ethic Advisor. C'est une appli qui va nous permettre de connaître, en scannant nos achats, l'impact que le produit qu'on vient de choisir a sur notre santé, la planète ou tout simplement sur la société. Je crois que l'idée ne vous est pas venue par hasard. Vous avez été malade, vous avez eu un cancer il y a 15 ans et la première prise de conscience, elle se fait à ce moment-là parce que vous pensez que ça vient probablement de votre manière de vous alimenter.
Oui, alors bon, c'est plus une anecdote que le fond de l'origine
on
d'Ethic Advisor. Mais effectivement, comme on en parlait
tout à l'heure.
Non, c'est vrai que, bon, voilà, j'ai eu à 35 ans, j'ai eu un cancer. Bon, ça surprend un peu à 35 ans. Ce n'est pas un cancer très, très connu. Et effectivement, les seules causes que les scientifiques ont pu retrouver autour de ce type de cancer, c'est l'alimentation ultra transformée.
Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous poser des questions.
Déjà, alors, le cancer, ça vous donne 6 mois de pause dans votre vie, et donc ça commence à aligner plein de choses. Mais donc c'était, on va dire, un point de départ. C'est d'un processus qui a duré une douzaine d'années avant que je fonde Ethic Advisor. Mais oui, voilà, donc effectivement, l'impact, et l'INSERM a fait une étude sur plus de 15 000 personnes qui a confirmé effectivement les liens entre alimentation ultra transformée, donc NovaScore, et certains types de cancers.
Et ensuite, encore une anecdote, vous voulez acheter un pèse-personne un jour, et là, pour le coup, c'est comme ça que va naître l'idée d'Ethic Advisor.
Alors là, c'était 3 mois avant, là, c'était le coup final. Là. Vous avez donné le coup de départ et puis c'est le coup final. Non, c'était effectivement, je venais d'avoir 45 ans, donc les prises de poids que ces âges nous imposent. Bref, et donc je vais dans une grande enseigne pour rechercher un pèse-personne. Le seul critère que je voulais, c'est effectivement dissocier la masse graisseuse du muscle pour voir si effectivement j'arrive à quelques progrès sur ce sujet. Et puis là, vous vous retrouvez devant 47 pèse-personnes, dont 32 font la fonctionnalité que vous vouliez. Et puis, il y en a 15 qui sont vraiment trop moches pour figurer dans votre salle de bain. Et vous finissez, alors je n'ai pas fait les calculs, mais vous finissez avec 17 pèse-personnes, dont les prix aussi entre 38 et 42 euros, qui peut avoir une importance pour des personnes, j'en suis conscient, mais qui, pour moi, pour le coup, ce n'est pas 4 euros qui allait faire basculer mon achat. Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autres critères de choix. Je ne savais pas si ce pèse-personne était fabriqué en France, si elle payait des impôts en France, si elle soutenait l'emploi des personnes handicapées, si elle avait utilisé des produits recyclés, si son pèse-personne était recyclable. Je n'avais aucune information au-delà vraiment du basique prix, qualité, esthétique du produit. Et c'est vraiment cette frustration qui est... Alors là, c'était l'aboutissement, mais c'est 15 ans de frustration. Effectivement, 2-3 mois après, je suis allé au greffe déposer les statuts d'Ethic Advisor.
Vous trouvez aussi votre associé assez rapidement, parce que ça démarre vraiment en 2017. En 2018, vous avez votre associé.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez 400 000 produits référencés.
Oui. Alors bon, on a l'idée, c'est de faire des partenariats. On veut créer un écosystème. Et je suis persuadé qu'on se reverra mes deux invités. L'idée, c'est effectivement de travailler avec Open Food Facts, qui est une énorme base de données alimentaires
dans la France Bouge, évidemment.
L'application utilise et qui nous a effectivement permis d'aller très vite sur justement l'intégration d'un certain nombre de produits à la plateforme.
Mais comment vous faites pour calculer la valeur éthique d'un produit? Qu'est-ce que vous mettez
derrière? C'est un très très bon point. Le premier, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le premier, c'est de faire un listing le plus factuel possible de l'ensemble des critères qui nous ont paru importants. Donc, par exemple, emballage plastique, pas plastique, bio, pas bio, biodynamique, pas biodynamique, paye ses impôts en France, parité salariale, oui, non, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui un peu plus de 65 critères éthiques. Et donc, nous, on les identifie. Et par contre, la beauté, si j'ose me permettre, de notre application,
l'esthétique,
c'est que c'est vous, en venant sur l'application, qui allez dire ce critère m'est important, ce critère me l'est moins. Si par exemple, vous avez une personne handicapée dans votre famille, peut-être acheter des produits, et on en a 2000 chez Ethic Advisor, fabriqués par des personnes en situation de handicap, ce sera votre priorité. Si vous revenez de Bretagne et que vous avez vu des monceaux de plastique sur votre plage d'enfance, peut-être ce sera je ne veux plus acheter de plastique. Si vous êtes de troisième génération de Maliens ou de. Peut-être ce sera le commerce équitable. Peu importe. C'est vous qui allez décider.
Donc on peut la personnaliser, en quelque sorte.
Nous, on donne les éléments factuels. Et vous entrez, vous dites ça, c'est plus ou moins important. Et le score va être le vôtre. C'est-à-dire que, typiquement, si on reste sur la nutrition, ça nous paraît un peu exagéré de dire qu'un produit est à 67 sur 100, alors que vous êtes un adolescent de 14 ans qui fait 8 heures de sport par jour, ou un diabétique de 75 ans sédentaire. L'impact et ce que vous recherchez d'un produit alimentaire ne va pas être le même. Et quand on va à l'éthique, c'est encore plus...
Encore plus large.
Exactement.
Notre coach, Sylvain
vous
Lambert.
Qu'alimentaire ou vous allez au-delà de l'alimentaire?
Non, alors c'est, l'idée c'est vraiment de se positionner comme le site et l'application de la consommation responsable. Donc on a l'alimentaire, on a le cosmétique, la mode, les produits manufacturés. Des entreprises comme la Camif, par exemple, qui font des gros efforts pour l'impact de l'ameublement. Donc l'idée, et même du service, par exemple. Donc on essaye effectivement de scanner. Alors les grilles de lecture de critères sont moins tangibles, mais il y en a, parité salariale, etc., sont par exemple applicables à ces entreprises. Et donc oui, non, l'idée c'est d'être le plus exhaustif possible et de trouver la réponse à chacune de vos recherches au moment de l'acte d'achat.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé aussi des comparateurs de prix qui peuvent également nous aider.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle le crossshopper.com. Peut-être que vous le connaissez, non ? Eh bien, ça existe depuis 2 ans. C'est un comparateur de prix collaboratif qui traque les meilleurs prix sur tous les sites internet, pas forcément les sites les plus connus, pour tous les types de produits. Et il existe depuis 2 ans, mais on peut déjà établir des tendances, comparer les enseignes, ils proposent des remises. Ils ont déjà 350 000 membres en 2 ans à peine d'existence.
On reste ensemble et on parle de ce monde qui change, de cette France qui bouge aujourd'hui sur Europe 1, notamment avec le Black Friday et les mouvements qui se développent en parallèle.
Il est 13h28.
Europe 1.
Restez avec nous, nous sommes à quelques semaines de Noël et certains sont tentés de profiter justement de ce Black Friday pour faire leurs achats. Si on utilisait plutôt Ethicado, une carte française qui référence les enseignes éthiques. A tout de suite.
Quelles sont les alternatives au Black Friday, un événement commercial qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année? On en parle dans La France Bouge. Et vous, êtes-vous influencé par cette journée spéciale, ce Black Friday? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921.
Vous savez que le système de la carte cadeau s'est beaucoup développé ces dernières années. Désormais, c'est vrai qu'il y en a un peu partout, mais une nouvelle a vu le jour. Elle s'appelle Ethic Cadeau. Bonjour Séverin Prats.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous.
Merci
vous êtes
à vous.
L'un des fondateurs de cette carte. Première carte cadeau française des enseignes 100% éthique, écologique, solidaire et responsable. Racontez-moi, c'est né comment ce projet?
En fait, ce projet est né du constat que en fait, les cartes cadeaux des grandes enseignes, les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, ne référençaient absolument pas les acteurs de la consommation responsable, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est rendu compte que si on se fédérait, nous, les acteurs du commerce équitable, du réemploi solidaire, du zéro déchet, du made in France, etc., en fait, on était en mesure de proposer à chaque fois une alternative éco-responsable à tous les cadeaux qu'on peut se faire à Noël. Et on s'est dit, allons-y, créons notre propre carte cadeau, créons notre propre modèle. Voilà.
Vous étiez déjà sensibilisé aux questions environnementales. Je crois que vous avez travaillé longtemps chez Paprec, notamment. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie déjà de votre engagement?
À titre personnel, oui. De tout temps, je me suis beaucoup posé les questions que se posent les utilisateurs d'Ethic Advisor, par exemple, de savoir quels étaient les impacts environnementaux, sociaux, des cadeaux que je faisais, notamment. Mais de ma consommation à titre en règle générale. Oui.
Donc, vous concevez cette idée de carte cadeau et comment ça se passe ensuite? Qui est-ce que vous référencez? Comment est-ce que vous faites le travail pour faire rentrer les enseignes à l'intérieur?
Alors nous, notre objectif, dès le départ, ça a été d'avoir la même gamme de produits, entre guillemets, que les cartes cadeaux des grandes enseignes, à savoir, en fait, on voulait montrer qu'aujourd'hui, il y a une alternative éco-responsable ou solidaire pour chaque produit, typiquement. Donc on a été chercher quelle était la meilleure alternative. Typiquement, si vous voulez un smartphone, la meilleure alternative, ça peut être un smartphone reconditionné en France par des personnes en insertion. Donc nous, on a été chercher des enseignes qui proposaient ça. Si vous voulez, par exemple, des cosmétiques, on ne va pas être sur des cosmétiques reconditionnés, ça n'a pas de sens. Là, on sera sur des cosmétiques fabriqués en France, bio, avec que des produits naturels, avec éventuellement des cosmétiques solides pour limiter l'emballage. Et donc, en fait, on a fait ce travail pour chaque produit d'aller identifier quelles étaient les alternatives éco-responsables et quelles enseignes les référençaient.
Donc aujourd'hui, vous travaillez avec près d'une centaine d'enseignes, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et combien de produits vous avez pu référencer? Vous avez une idée?
Alors, c'est très complexe de savoir le nombre de produits, tout simplement parce que donc on a une centaine d'enseignes à la fois. Alors, c'est à la fois des enseignes en ligne, parce que c'est important de pouvoir consommer en ligne, et aussi des enseignes pour aller consommer en bas de chez soi. C'est très compliqué de répondre à votre question, parce que notamment, on a référencé beaucoup de ressourceries. Ce qui, en fait, les produits changent chaque jour. Donc, c'est sympa d'aller chiner chaque jour parce qu'on trouve des nouvelles choses qui ont été réemployées. Et souvent, c'est des personnes en insertion. Donc, il y a un vrai projet à la fois environnemental et social.
Oui, parce que en plus de ça, vous avez créé une société coopérative d'intérêt collectif.
Oui. Le principe des... Alors nous, on a souhaité en fait aller vraiment au bout de ce qu'est une entreprise éthique pour nous. C'est-à-dire que le principe des SIC, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est une société, elle est administrée par ses salariés, par les enseignes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est les enseignes qui choisissent aussi le taux de commission, parce qu'on a un fonctionnement comme ça. Elle est administrée par ses clients, c'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui devenir sociétaire d'Ethicado. Plutôt que laisser d'investir dans des sociétés classiques, on peut aussi décider d'investir responsable. Donc ça c'est l'objectif. Il y a un principe de une personne égale une voix, c'est-à-dire que c'est une société qui est démocratique. Voilà, on a limite, donc il n'y a pas de dividendes aussi, et on a les salaires sont limités aussi.
Notre coach Sylvain.
Vous embarquez une sacrée promesse. Et qu'est-ce qui me donne comment vous assurez la garantie que tout ce que je vais, ce à quoi je vais pouvoir accéder par la carte correspond bien aux valeurs que vous exprimez là. Comment je suis sûr que j'ai pas une sorte de truc faussement éthique derrière?
Alors nous, on fait un gros travail, c'est-à-dire que...
Que ça n'apparaît pas sur la... Forcément, enfin, à part la promesse de la marque qui se dit éthique, mais...
Oui. Nous, on a fait une charte qui est assez stricte, on va dire, qui est disponible en ligne, d'ailleurs, sur le site de ethicado.co, que je vous invite tous à aller voir. Donc, typiquement, parmi nos critères, aucune des enseignes que nous référençons ne participe au Black Friday, par exemple. Donc là, déjà, on élimine quand même beaucoup de gens un peu faussement éthiques, entre guillemets. Donc c'est un des critères. Je vous invite à aller voir les autres parce que c'est assez long et on n'a peut-être pas assez le temps. Et donc, nous, on vérifie, bien entendu, avec chacune des boutiques. On y va. Sur les boutiques en ligne, on s'y rend, on regarde. Et voilà.
La carte, elle est en quoi?
Alors la carte, nous, on ne souhaitait pas avoir une carte qui soit... Les cartes cadeaux classiques, c'est un peu des plastiques à usage unique, même si elles sont valables en plusieurs fois.
C'est pour ça que je vous pose la question.
C'est ça. Nous, en 2019, on s'est dit, quand on sort un produit en 2019, ça ne peut plus être un plastique à usage unique. Je pense que c'est impossible, on a vraiment passé ce cap. Donc on a souhaité chercher un support alternatif. Donc on a testé beaucoup de choses, on a testé du papier ensemencé, on a testé du bois, on a testé plein de choses.
La petite enveloppe est en papier ensemencé, non? Recyclé?
La carte elle-même est en papier très épais, vous l'avez dans les mains, la plupart des gens avant de savoir que c'est du papier, ils pensent que c'est du plastique, mais ça n'en est pas. Et ensuite on la livre donc avec une petite enveloppe en papier recyclé bien sûr, et puis on a fait une option un peu sympa qui est un porte-carte ensemencé, c'est-à-dire que c'est du papier dans lequel il y a des graines de fleurs, donc la personne qui la reçoit peut ensuite la planter et donc il y aura des fleurs qui pousseront chez elle, voilà.
Vous connaissez, on a reçu récemment, Elisabeth, la carte française.
Oui, la carte française, vous connaissez peut-être. C'est une carte cadeau recense uniquement des enseignes qui fabriquent des produits faits en France. Oui. Alors peut-être y a-t-il dedans des enseignes qui font le Black Friday.
Des passerelles à établir entre vous.
Oui, on a, donc, j'ai rencontré Charles qui a créé cette initiative. On a des enseignants communs. Par exemple, je crois que vous avez reçu 1083.
1083, c'est un de nos coachs, évidemment.
C'est ça.
Le slip français.
C'est ça. Le slip français, il ne rentre pas dans nos critères, malheureusement.
Pourquoi?
Nous, en fait, on a vraiment cherché à aller chercher les enseignes les plus vertueuses, entre guillemets. Et donc, typiquement, on a des gens aujourd'hui en France, comme French Kiss ou Oli Lingerie, qui font des sous-vêtements fabriqués en France, mais à partir de coton bio. Typiquement, toute leur gamme est réalisée à partir de coton bio. D'autres vont utiliser des matériaux recyclés. Et donc, le Made in France en tant que tel n'est pas un critère suffisant.
Alors, je vous pose la question parce que, effectivement, 1083 et le slip français lancent justement aujourd'hui une opération sur le coton.
C'est super.
C'est important de le signaler parce que c'est une des problématiques et ils sont en train de s'en saisir pour essayer justement de faire
nouvelle.
Avancer
c'est
les
une
choses
très,
sur,
très bonne
ce, sur ce sujet. On reste ensemble et on continue à parler des alternatives au Black Friday. Je vais y arriver. Il est 13h38.
Europe 1.
Et vous pouvez venir nous dire évidemment ce que vous en pensez. 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. Quelles sont les alternatives au Black Friday? On en parle cet après-midi dans La France bouge avec vos invités, Raphaël. Nous sommes avec Karina Pérez, cofondatrice du mouvement Green Friday, coprésidente du REFER, on dit un réseau francilien des acteurs du réemploi. Séverin Prats, cofondateur de Ethicado, la première carte cadeau française des enseignes 100% éthique, écologique, solidaire et responsable, c'est long à dire. Et Eric Taillard, cofondateur d'Ethic Advisor, une application pour apprendre à consommer plus éthique. Notre coach, c'est Sylvain Lambert, associé chez PwC et membre du réseau Let's Go France, évidemment. Et puis, évidemment, Elisabeth Achayag est à mes côtés. On se pose beaucoup de questions sur ces alternatives au Black Friday. J'ai lu, j'ai vu Fair Friday, Green Friday. Il se passe vraiment quelque chose. Pour vous, c'est une évidence, mais pour le grand public, il y a une prise de conscience réelle qui est en train de s'opérer. Karina Pérez ?
Oui. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui. Moi, ça fait quand même quelques années que j'essaye de combattre la consommation inutile, le gaspillage, de promouvoir le réemploi, donc l'achat d'occasion. Et en fait, avant, même dans mon cercle d'amis, on me prenait un peu quand même...
Pas très au sérieux.
Non, on disait que j'étais, très utopiste, un peu quand même, très militante et que personne, en fait, ne pouvait s'en passer de la consommation. Et or, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience globale de ces enjeux. Parce qu'en fait, les jeunes, en particulier avec la marche pour le climat, ont remis au centre du débat notre système. Et ça, je crois que ça a beaucoup... Puis il y a les gilets jaunes aussi, hein, on est vraiment dans un...
Vous voulez dire que ça a agité pas mal de choses,
oui.
Et ça a changé finalement le curseur de position.
Oui, je pense que vraiment on est à un moment où les gens commencent à se dire « Tiens, il y a peut-être quand même quelque chose à voir avec ma manière... de consommer, et qu'en fait, consommer, c'est quand même un choix.
C'est-à-dire qu'ils se posent des questions qu'ils ne se posaient peut-être pas avant. On a une question, justement, sur Twitter, de Marc.
Oui, qui dit toutes vos considérations ou solutions sont bien louables, mais ne croyez-vous pas qu'elles sont bien loin de la préoccupation première des gens, celle de payer le prix le moins cher?
Ah, alors, qui veut répondre? Eric.
C'est pour moi, elle n'est pas facile. Non, mais c'est évident que le critère prix... Alors c'est un peu le problème du système, c'est pourquoi des gens sont à ce point-là dépendants du prix des produits aussi, qu'on peut se poser cette question. Pourquoi autant de gens vont au Black Friday? Il y a des gens qui vont parce qu'ils n'ont pas le choix.
C'est pour qu'il ne faut pas non plus le boycotter à tout prix.
Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Après, effectivement, le prix restera dans la triangle, dans le top 3 des critères d'achat de tous les gens, parce que c'est une réalité tangible du quotidien. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire et pas mal d'études, donc Greenflex, etc., 2019, prouvent qu'effectivement, 87% des Français veulent changer leur mode de consommation, donc c'est énorme. On évalue à 2 millions les intégristes, dont on est des modestes représentants ici, mais cette masse grandit chaque jour, et on n'a qu'à espérer qu'effectivement, elle devienne la norme.
Sylvain, notre coach.
Deux choses à partager. À peu près 30%, selon une étude de la Fédération des distributeurs, 30% des gens sont à 1 euro près sur leur course. Donc, c'est-à-dire que leur champ d'action, c'est 1 euro. Et une autre information, c'est que un très grand magasin, Boulevard Haussmann, constate depuis 12 mois une vraie déconsommation. Donc, ça correspond complètement à ce que vous dites, l'observation de tendance de déconsommation. Ça veut dire forcément consommer moins, mais ça veut dire aussi consommer mieux. Et ça, même si c'est pour ces grands magasins plutôt du CSP+, mais ça touche à peu près toutes les tendances aujourd'hui.
Est-ce que je...
Mais bien sûr.
En fait, souvent on dit, on met un frein en fait à une consommation responsable par l'argent. C'est-à-dire que on dit les pauvres, de toute façon, je suis très un peu clash, mais les pauvres en fait, ils n'ont pas les moyens de consommer différemment parce qu'en fait, tout ce qui est éthique entre guillemets coûte plus cher. Moi, ça, franchement, c'est à déconstruire totalement. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie du meilleur pour ses enfants. Et le meilleur, c'est aussi une question d'éducation et une question aussi de pédagogie. On en parlait tout à l'heure.
Oui.
C'est très important d'expliquer. Moi, je gagne le SMIC, d'accord ? Je travaille dans une ressourcerie, c'est un peu un avantage, globalement, tous les jours. Mais bon, je mange pas ressourcerie, bien que. Mais c'est possible en mettant des priorités dans son budget, en faisant des choix, et que nos deux garçons ici présents le montrent bien. C'est que c'est quand même des questions de choix et des questions de priorité. Et on peut très bien avoir un budget qui tient. Alors après, il faut regarder le prix forcément à un moment donné. Quand on gagne pas beaucoup d'argent, on va le faire. Mais je pense que c'est pas là, en fait, c'est pas là le plus important.
Un peu quand même. pour ceux qui gagnent très, très peu leur vie, qui ont du mal à joindre les deux bouts, ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais évidemment, c'est le prix qu'on regarde en premier. Fait en France ou pas fait en France ? Et Black Friday ou pas Black Friday ?
Je peux juste faire un petit modulo là-dessus, parce que c'est des sujets complexes. Mmh. Mais il y a quand même une réalité, c'est que, puisque là, pour le coup, sur 400 000 produits, on commence à avoir un peu... avoir des impacts positifs n'est pas forcément plus cher. Parce qu'il y a quand même une donnée dans le coût des entreprises qui s'appelle le marketing. Et entre les millions de dollars dépensés en greenwashing par certaines entreprises et des petites PME, comme le produit que j'ai sous la main, qui n'a pas un euro en marketing et qui compte uniquement sur soit des sociétés comme Etiquadvisor ou Etiquado pour se faire connaître, mais donc qui par définition ne dépensent pas d'argent, au final, le coût du produit, parce qu'il n'est que sur la matière, n'est pas forcément plus cher pour le consommateur final. Donc
il faut juste le faire savoir.
Il faut le faire savoir, voilà, exactement.
Et je voudrais qu'on fasse savoir aussi quelque chose d'important, c'est un autre mouvement mondial, c'est le Giving Tuesday.
Oui, ça c'est un mouvement mondial qui célèbre la générosité, hein. C'est en riposte à ce qu'on dit, hein, à la surconsommation du Black Friday. Le Giving Tuesday, il va être de retour, ça va être la deuxième fois là, le 3 décembre, hein, mardi prochain. C'est une initiative qui avait été lancée en 2012 par Barack Obama, sous la présidence de Barack Obama. Ça a été exporté en France donc l'année dernière et ça va être non pas du bon mais du don cadeau sous la forme d'une carte à offrir. Voilà, on sera dans le 3 décembre, ce sera donc le Giving Tuesday ou le mouvement mondial qui célèbre la générosité.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous en direct pour parler de ces alternatives sur Europe 1. Un petit peu de musique. On reste ensemble d'ici quelques minutes. On va s'intéresser à l'entreprise qui va bien. C'est une des références du thé en France et c'est la plus anglaise de nos marques tricolores. C'est Benchmark et Barton. Et c'est l'entreprise qui va bien, Céline.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Benchmark et Barton. Bonjour Agnès de Fontaine.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de cette maison qui existe quand même depuis 1919. Mais à l'époque, elle s'appelait autrement. C'était d'abord The English Tea House. Et c'est un Anglais, évidemment, Arthur Benchmark, venu à Paris s'installer, qui l'a fondé parce que, tout simplement, il ne trouvait pas le thé qu'il aimait.
Exactement, comme tout bon Anglais qui se respecte. Voilà, il est arrivé à Paris, il n'y avait pas de lieu dédié véritablement au thé.
Pas de maison de thé.
Pas de maison de thé, donc on est véritablement la première maison de thé à Paris.
Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à trouver des thés, à travailler avec des maisons anglaises à l'époque ?
Alors il commence à importer quelques thés, mais voilà, plutôt en assez faible quantité, et à dédier aussi ce lieu un peu à la gastronomie anglaise, donc avec du saumon,
du bacon,
du whisky, etc. Et cette boutique rue de Suresnes dans le 8e devient assez vite une boutique incontournable. Et donc, il rencontre ensuite, en 1928, Percy Barton. Voilà.
Ce qui va devenir son associé.
Exactement.
D'où la marque Benchmark et Barton.
Tout à fait.
C'est dans les années 60, je crois, que la fille de Monsieur Barton, pour le coup, contacte la famille Jumeaux Lafond, c'est ça ?
Tout à fait. Voilà, une famille qui est dans le thé depuis de nombreuses années et donc qui a envie de revendre sa société. Et donc, elle fait appel à Didier Jumeaux Lafond qui, en 78, va donc reprendre la maison.
Reprendre la maison et lui donner finalement l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui, parce qu'on passe de 10 thés à 100 thés.
Voire même 200-250 thés.
250,
exactement.
100 thés à l'époque, hein, à l'époque référencée.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Le thé, on peut dire, c'est un art.
C'est un art. C'est un art du début jusqu'à la fin, du ramassage des feuilles.
À la main.
À la main, où on ne prend que le bourgeon et la première feuille. Voilà, où tout est fait à la main. Donc, c'est souvent des femmes qui le font parce que elles ont la peau douce. Hein, voilà.
Et alors, vous faites venir des thés d'Inde, de Chine, du Népal, du Japon, d'Afrique du Sud. On pourrait évidemment donner toute la liste, mais. Ça arrive par caisse de 20 kilos, c'est ça ?
Ça arrive soit par caisse, soit dans des énormes sacs, voilà.
Et ensuite, c'est travaillé ici,
en France. Et ensuite, tout est travaillé en France. Donc,
vous récupérez la matière brute.
C'est ça. Donc il faut séparer deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'été classique et l'été parfumé. Donc l'été classique, quand on les récupère, il faut les nettoyer, les dépoussiérer, enlever tout. S'il peut y avoir des brindilles, des morceaux de métal, etc. Et après, on passe soit au mélange, donc pour faire des blends, vous avez déjà entendu parler du Royal Breakfast, des choses comme ça. Et ensuite, il y a un autre travail pour l'été parfumé qui consiste donc à parfumer c'était avec des huiles essentielles, des morceaux de fruits, de fleurs.
Et là, vous travaillez avec des aromaticiens.
Tout à fait. Voilà, donc on en a plusieurs. Hein. Après, c'est comme un nez dans le parfum. Et donc, c'est des gens qui travaillent avec moi et qui ont des sensibilités donc différentes et qui vont pouvoir créer avec moi des thés parfumés.
Et ça permet aussi, moi je ne le savais pas, de faire du sur-mesure.
Exactement.
Donc, c'est-à-dire que je peux créer le thé dont j'ai envie.
C'est une des signatures de la maison, c'est-à-dire que c'est vraiment le sur-mesure. On le fait pour beaucoup de clients des hôtels, 4-5 étoiles. Et on peut vraiment apporter quelque chose de différent et faire en fonction des goûts de chacun.
Sylvain, notre coach.
Donc, bonjour, le plus grand marché aujourd'hui, c'est juste la France ou vous êtes complètement international?
Alors, on est international déjà depuis plus de 25 ans, avec une quinzaine de franchises en France et dans le monde.
Et le plus gros marché hors de France?
Et le plus gros marché hors de France, on va dire Hollande. Hollande, Suisse et Asie.
Vous avez 15 employés ici?
C'est ça.
Et une quinzaine de franchises,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait, en France et dans le monde.
La suite, c'est quoi? Parce que vous êtes arrivé dans l'aventure...
Il y a 15 ans.
Il y a 15 ans.
C'est tout par 15.
Tout par 15, c'est vrai. La suite, vous la voyez comment?
La suite, c'est un développement toujours à l'international, avec beaucoup plus de franchises encore, mais toujours, j'allais dire, à notre rythme et à notre façon, et avec beaucoup de délicatesse à la française.
On est à une période où évidemment, il y a beaucoup de consommation de Noël.
Oui.
Vous avez sorti des produits spécifiques, justement.
Donc, on a évidemment le calendrier de l'Avent.
Hein, oui. Voilà, c'est quelque classique. Chose qui marche très bien.
C'est quelque chose qui marche très bien. C'est assez nouveau, on va dire, depuis 4-5 ans. Voilà, où en fait, dans chaque petite case, vous avez un sachet de thé ou de tisane. Voilà, pour vous accompagner tous les matins ou après-midi ou soir.
Avec une spécialité, je crois, justement.
Avec une spécialité, quelque chose, parce que c'est toujours, voilà, on est toujours dans l'innovation et dans dénicher des choses un peu différentes. Et on vient de créer le cacao, qui était une infusion, exactement, fabriquée avec des écorces de fèves de cacao. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que ça a toutes les vertus et tous les avantages du cacao sans avoir les inconvénients du gras, du lait, etc.
Elisabeth est une connaisseuse, oui. Elle vous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Avec beaucoup d'intérêt et je tiens à dire que vos boîtes sont absolument magnifiques.
Merci. Voilà, on travaille avec des illustratrices différentes. On est très pointilleux sur aussi la qualité de l'emballage.
Chaque détail est étudié.
Chaque détail, chaque couleur, parce que vous imaginez pas le travail que c'est, mais c'est vraiment avec des pantones précis, avec des choses. C'est beaucoup de travail pour arriver à ça.
Bravo.
Et on vous invite à aller découvrir Bedgman et Barton. C'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Merci à Sylvain qui était notre coach.
Avec plaisir.
Elisabeth Céline.
À lundi.
Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous.
À lundi.